Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Coco, merci à l'équipe de nuit. Nous sommes le mercredi 19 janvier, comme quoi on progresse. Pas la peine de crier, poursuit sa rencontre avec la réalisatrice Nourita Vive, mais avant cela et sans plus tarder, les premières nouvelles de la matinée. Le journal de la rédaction nous est présenté par Solène Lehen. Bonjour Solène.
Bonjour Marie, bonjour à tous. En Tunisie, le gouvernement d'union nationale n'aura tenu que 24 heures. Quatre ministres ont démissionné hier, pour trois d'entre eux des membres de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT. Ses anciens opposants dénoncent la présence dans le gouvernement de membres du RCD, le parti du président déchu Ben Ali. À Tunis, Sébastien Legeni.
Certains Tunisiens ont peur qu'on leur vole leur révolution. Plusieurs manifestations ont éclaté hier contre le nouveau gouvernement qui serait trop lié à l'ancien régime. C'est cette inquiétude de la rue qui a poussé trois ministres syndicalistes à déjà quitter le pouvoir. Abdeljalid Bedoui fait partie de ces démissionnaires.
La composition de ce gouvernement consacre la continuité des mêmes pratiques. L'hégémonie du parti au pouvoir dans ce gouvernement. Et ce même parti au pouvoir, il a trouvé le plaisir de se faire représenter par des figures discréditées, connues pour le lien intime avec les familles mafieuses de l'ancien régime.
Les principaux partis d'opposition, quant à eux, ont choisi de rester. Pour le PDP, le Parti démocratique progressiste, les démissionnaires font courir un grand risque à cette fragile transition démocratique, comme le dit l'un de ses membres, Ahmed Bouazi.
Ils sont irresponsables. Nous sommes des gens responsables. On ne peut pas obtenir tout de suite. Nous ne démissionnerons pas pour ne pas causer un vide, causer le chaos, dont le résultat immédiat sera la prise du pouvoir par les militaires.
Le Premier ministre et le président par intérim ont tenté de faire un geste. Hier, ces deux membres éminents du RCD, le parti au pouvoir, ont tous les deux rendu leur carte. Et demain, un premier conseil des ministres mettra à l'ordre du jour deux revendications historiques de l'opposition, une loi sur l'amnistie générale et une loi sur la neutralité de l'État.
Sitôt rentré au pays, sitôt inculpé, l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier a été officiellement inculpé hier par la justice haïtienne de corruption, vol, détournement de fonds et abus de pouvoir pendant ses années à la tête du pays entre 1971 et 1986. Baby Doc a été laissé en liberté mais a interdiction de quitter Haïti. Le président chinois Hu Jintao est arrivé aux États-Unis pour une visite d'État de trois jours, le but étant de renforcer les liens entre les deux plus grandes économies de la planète. Temps fort aujourd'hui avec des entretiens bilatéraux et une conférence de presse commune de Hu Jintao et son homologue Barack Obama. En France, après la CGT, le Parti communiste et le Parti de gauche, la semaine dernière, c'est au tour des principaux syndicats de l'éducation de boycotter les vœux de Nicolas Sarkozy. Le président présente ce midi ses vœux au monde de la connaissance et de la culture au Grand Palais à Paris. Mais entre les suppressions de postes dans l'enseignement et le malaise des chercheurs, le contexte n'est pas favorable au chef de l'État, Tara Schlegel.
En 2010, à la Cité de la Musique, Nicolas Sarkozy avait annoncé une grande année pour la culture, avec des projets comme la Maison de l'Histoire de France à inventer, ou les 750 millions d'euros pour numériser les patrimoines. Le chef de l'État voulait veiller à la vitalité et l'épanouissement du secteur. Et puis toujours l'année dernière, à Saclay, cette fois, le président avait rappelé aux enseignants, aux universitaires, aux chercheurs, combien le pays a besoin d'eux. Il leur avait promis la réforme et les moyens. Un an plus tard, les deux mondes se trouvent réunis au Grand Palais, dans un mariage audacieux pour écouter des vœux sur fond de rigueur. Pour l'éducation, le calcul est vite fait. Moins 16 000 postes justifient une manifestation ce samedi. En matière de recherche et de culture, les budgets affichés en hausse ne convainquent pas les représentants. Dans ces deux ministères, une même logique d'autonomie serait à l'œuvre, souvent très critiquée. Chez les scientifiques, on dénonce pêle-mêle les pouvoirs accrus donnés au président d'université, la course au financement extérieur, la mise en concurrence des laboratoires pour décrocher les millions promis par le grand emprunt. À la culture, entre le transfert à venir de certains monuments nationaux vers les collectivités locales, les grands musées qui accélèrent la privatisation de certains services, la Maison de l'Histoire de France, toujours controversée, qui pourrait absorber jusqu'à 8 musées nationaux, les sujets de fâcherie ne manquent pas. Mais ils s'illustreront sans doute loin des petits fours, car beaucoup de syndicalistes n'ont pas été invités et ceux de l'enseignement préfèrent boycotter les vœux présidentiels.
La commission des affaires sociales du Sénat a proposé hier une loi pour légaliser l'euthanasie. L'euthanasie dite active, où toute personne capable majeure en phase avancée ou terminale peut demander une mort rapide et sans douleur. Cette proposition a très peu de chances d'être adoptée puisque la majorité des sénateurs UMP y est hostile. Elle sera néanmoins discutée au Palais du Luxembourg dans une semaine. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision dans 10 jours, le 28 janvier, sur l'autorisation ou non du mariage homosexuel sociale en France. Il examinait hier cette question à l'initiative d'un couple de femmes. Enfin, le temps, journée nuageuse et surtout plus fraîche que ces derniers jours, notamment à cause de rafales de vent à attendre sur les côtes et le long du couloir rhodanien. La nuit prochaine, la neige pourrait d'ailleurs tomber. En attendant, ce matin, il fera de 1 à 4 degrés au nord, de 4 à 8 au sud. Cet après-midi, de 3 à 14 degrés du nord au sud. 6h05 sur France Culture, vous vous réveillez avec Marie Richeux et pas la peine de crier.
Merci beaucoup Solène, à tout à l'heure. 6h30 pour les titres et la revue de la presse en ligne. Avoir quelque chose sur le bout de la langue quand ce n'est pas un cheveu mais un mot, une idée, un prénom, une histoire, un souvenir qui voudrait bien venir, qui voudrait bien être dit, mais qui reste sur le bout de la langue comme une élégante hésitation ou une personnelle autocensure. Ça vous rend fou parfois. On se retrouve comme parasité, mais parfois c'est une douce obsession qui vous fait maladroitement faire de sacrés lapsus. D'ailleurs, ces fameux lapsus, clin d'œil filou et ravageur de notre inconscient à notre conscient, les lapsus viennent aussi de là, de la langue qui fourche. C'est notre unique objet d'étude cette semaine, notre unique objet d'amour, et vu qu'elle est traversée partout, alors nous avons l'étude et l'amour large. Ça ne vous dit rien de ce que j'ai sur le bout de la langue, et c'est tant mieux, mais ça pourrait être merci, car il paraît que vous êtes un tout petit peu plus nombreux à 6h06 sur France Culture, à écouter Pas la peine de crier. Ça, c'est bien. Depuis lundi, nous sommes en compagnie de la réalisatrice Norita Vive. C'est grâce à elle que nous sortons de loupe à langage pour regarder ce qui s'y passe. Ses films, depuis de nombreuses années, le font tout en délicatesse, d'une façon savante et généreuse. Aujourd'hui sort le dernier opus de la trilogie, il s'appelle « Traduire ». Des traducteurs, des auteurs, des poètes parlent de cette matière qu'ils sculptent ou par laquelle ils sont sculptés. La langue, comme dans les précédents films, y est appréhendée comme un corps éminemment vivant, avec ses boursouflures, ses cicatrices, ses marques indélébiles de l'histoire. Parler une langue, c'est aussi affirmer que pour rien au monde, on s'en laisserait déposséder. Aujourd'hui, mercredi, troisième moment de notre rencontre avec la réalisatrice Norita Vive. Bonjour Norita Vive.
Bonjour Marie.
Dans plusieurs de vos films, pour ne presque pas dire tous, vous filmez vos interlocuteurs, les gens que vous rencontrez, dans la position statique, devant leur maison, devant leur canapé, devant une chaise, devant quelque chose, au bord de quelque chose. Pourquoi ?
Vous avez bien dit au bord, hein, parce que si, vous savez, le premier qui s'appelle d'une langue à l'autre, s'appelle en hébreu Misafa le Safa, ça veut dire d'une langue à l'autre. Mais Safa, c'est le bord de la mer, c'est le bord de, c'est la limite, c'est la frontière. Et en effet, c'est pour ça que je commence, peut-être, j'ai compris après, au bord de la mer. Et après, les gens sont au seuil de leur maison. Et seuil, c'est dit saf. Donc, safa la langue et saf le seuil. Donc, en fait, vous avez touché les bords et les seuils.
Est-ce qu'on peut considérer que la langue, c'est le bord de nous-mêmes, le bord des individus, comme une membrane, comme une espèce de frontière au monde ?
Ce qui est intéressant, que ça veut dire aussi lèvres.
Les lèvres.
Les lèvres. Donc, les lèvres, il y a deux mots pour dire en hébreu. Il y a safa. C'est les lèvres, les bords. Et il y a la chaune qui est la langue, la langue comme en français, qui est à l'intérieur. Hein. Donc c'est joli qu'il y a cette frontière. Donc la frontière et l'intérieur, hein, c'est-à-dire qu'on peut choisir lesquels des deux mots on utilise. D'ailleurs, en hébreu, le film « Langue sacrée, langue parlée », on n'entend pas deux fois langue, ça s'est dit, et je l'ai appelé « Leshon Kodesh Sfatrol ». Donc la chaune pour sacré et safa pour langue parlée, hein, donc en hébreu langue profane.
La langue, elle est évoquée par les gens qui témoignent, souvent d'une façon extrêmement organique. Je pense à Aaron Appelfeld qui parle de gravier comme glissé dans la gorge à propos de l'hébreu. D'autres parlent d'une langue avec des boursouflures, avec des cicatrices. C'est presque comme un corps, c'est presque comme une matière vivante. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez la langue ?
Complètement. Complètement. D'ailleurs, quand je dis un mot, j'attends de voir le son. Et après, il me rappelle un autre mot dans une autre langue. Et je les vois devant mes yeux, souvent en hébreu d'ailleurs. Quand il y a un mot, je le vois écrit devant moi, mais graphiquement. Il prend corps, c'est le corps de la lettre. Hein.
Est-ce que c'est aussi une musique?
Oui, c'est une musique, une image. C'est absolument une musique. Ce qui est marrant, quand on parle comme ça de langue, il y a un mot qui peut avoir, qui peut être exactement dans une autre langue, exactement la même sonorité, et évidemment dire quelque chose de complètement différent. Mais on l'entend surtout dans les rêves. Hein. On l'entend et tout d'un coup, on rêve. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Donc tout d'un coup, on passe juste par la sonorité.
Mein Vater ist hier in Berlin geboren. Auch sein Vater, sein Großvater, seine Urgroßmutter sind hier geboren. Ich bin in Tel Aviv geboren. Berlin ist mir fremd.
Dans l'introduction de Vaterland, qui se fait dans la langue allemande, dans votre voix, vous parlez de vous, de votre biographie, et puis vous dites « Ich bin in Tel Aviv geboren ». Ça veut dire « Je suis né à Tel Aviv ».«
Ich bin in Tel Aviv geboren ».
Et dans cette phrase, moi, j'entends vraiment un accent allemand absolument parfait, sauf dans le mot « Tel Aviv », qui change de musique. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, il y a comme des berceuses dans la tête qui sont à la fois raccrochées à la langue allemande, à la langue hébraïque, différentes? Est-ce qu'il y a des musiques différentes en fonction des langues, qui évoqueraient des souvenirs différents?
Absolument, absolument. Et je crois que là, déjà, l'allemand, pour moi, était la langue de la maison, la langue intime, la langue des parents, mais la langue aussi des amis des parents, ou même ma mère qui allait acheter ses légumes en allemand. Mais c'était les rapports. Après, était là où il y avait les autres, hein, c'est-à-dire même déjà dans le jardin d'enfants, il y avait d'autres enfants, on parlait l'hébreu, donc c'était de la langue où j'étais moins assurée, parce que je devais confronter le monde. Et il y avait ces va-et-vient. Mais si je parle dans ce film en allemand, moi, c'est pour revendiquer que cette langue, elle appartient aussi. Je veux dire, elle appartient, comme dit Arendt, « Was bleibt, ist die Muttersprache ». Ce qui reste, c'est la langue maternelle. Et on ne va pas nous l'enlever.
Anna Arendt, 1964. Je vivais dans un milieu intellectuel, mais je côtoyais aussi d'autres milieux. J'ai constaté que parmi les intellectuels, l'abandon était la règle, pas chez les autres. Je n'ai jamais oublié cela. J'ai quitté l'Allemagne en me disant, de façon certes exagérée, mais en me disant, plus jamais. Plus jamais je ne toucherai à une histoire intellectuelle. Je ne veux plus avoir affaire avec ce milieu-là.
C'est lent, il a écrit, même après la guerre, en allemand. Kafka a écrit avant et Freud avant. Je peux comprendre que pour d'autres, elle évoque d'autres associations d'idées, mais moi, je sais là, avec l'hébreu, donc, elle marche comme ça, côte à côte, toutes les deux. Bien que l'allemand, je maîtrise beaucoup moins. Je sais lire, je ne sais pas écrire, je sais lire un peu, mais je ne lis pas, je veux dire, la langue dans laquelle je bouge mieux, c'est évidemment l'hébreu pour moi.
Il y a une des personnes qui dit qu'il y a comme des cicatrices qui ne sont pas refermables dans l'allemand. Par exemple, c'est le mot « Reich »,
oui,
veut dire « riche ».
Oui.
Mais veut dire aussi Troisième Reich.
Oui.
Et du coup, c'est comme de ne jamais être consolable. Vous comprenez quand même ça?
Mais évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, qu'une autre personne, de nouveau Chaviva Pedaya dans le film D'une langue à l'autre, dit la même chose sur un mot en hébreu, hein, les taher, hein, purifié. Bon, qu'est-ce qu'on en a fait? Comment on l'utilise? Donc, une fois que... Oui, bien sûr, il y a des mots où qui, moi, j'ai des associations que... Bon, je ne sais pas, si je vois la Dachauer Straße à Munich, je suis... Ah, bon, comment ils peuvent dire ça? Même quand ils disent Führer pour dire les guides routiers, je dis, mais comment ils n'entendent pas qu'ils disent Führer? Ils le disent comme ça, comme s'il n'y avait rien. Et je suis étonnée.
Mais c'est aussi la force du présent.
Oui, mais c'est-à-dire que justement, on a à se questionner par rapport aux mots, qu'ils disent pas n'importe quoi et comment leur peuvent leur donner ou pas un nouveau sens. Hein, parce qu'il y a des mots où c'est foutu. ils ne pourront plus retrouver leur sens premier. Ce n'est pas important. En fait, on ne cherche pas les sens premiers. On cherche l'interprétation qu'on donne aux mots et être conscient de chemin que ces mots ont fait à travers l'histoire.
Je ne peux pas vous entendre dire interprétation sans faire écho à la petite image qui trône au-dessus des toilettes chez vous. Sigmund Freud. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire le lien que vous avez avec cette figure-là ou avec la psychanalyse, selon votre choix?
Freud, c'est notre père à tous. Sans quelques années de divan, je serais pas... J'aurais pas dit les paroles qu'on dit là, c'est tout. C'est pas qu'il en faut, mais moi, c'est mon histoire. Et les liens divan, je peux même dire à plusieurs divans.
Norita Vive, que nous faites-vous écouter en ce troisième matin?
C'est Takemitsu que j'ai filmé au Japon et que j'aime beaucoup.
Le film « Traduire » de Norita Vive sort en salle aujourd'hui. Il sera visible au cinéma des Trois-Luxembourg à Paris et une série de rencontres a été pensée autour de ce film. Ce soir, après la projection à 21h, la réalisatrice s'entretiendra avec la philosophe et auteure Hélène Sixou. Toutes les infos sur le site internet de l'émission, bien sûr. Vous avez dit langue et poésie et toute cette semaine, c'est une voix qui nous fait lecture et pas n'importe laquelle. Stéphane Hessel, que l'on ne présente plus, a durant toute sa vie appris par cœur des poèmes. Vous les lire chaque matin, c'est un peu pour suivre la transmission. Aujourd'hui, les chercheuses de poux d'Arthur Rimbaud.
Quand le front de l'enfant plein de rouge tourmente, implore l'essaim blanc des rêves indistincts, il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes avec leurs frêles doigts aux ongles argentins. Elles assoient l'enfant au bord d'une croisée grande ouverte où l'air bleu baigne un fouillis de fleurs et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée promènent leurs doigts vifs, terrible et charmeur. Il écoute chanter leur haleine craintive qui fleure de longs miels végétaux et rosés et qu'interrompt parfois un sifflement, salive retenue sur la lèvre ou désir de baiser. Il entend leurs cils noirs battant dans les silences parfumés et leurs doigts, électriques et doux, font crépiter parmi ces grises indolences sous leurs ongles royaux la mort des petits poux. Voilà que monte en lui le vin de la paresse, soupir d'harmonica qui pourrait délirer. L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses, sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer.
Stéphane Hessel, que vous retrouverez tout à l'heure dans les matins de Marc Voinchet dans une discussion face au sociologue Edgar Morin. Mais tout de suite, le Polaroid. Puisqu'il fut plutôt question de partir, puisque quelque chose de vital les y a poussés, alors ils galopent. Leurs rayures noires et blanches se mêlent et dessinent de drôles de formes géométriques. Les lignes sont flouées par le mouvement. Ils sont 1000, ils sont 100, ils sont 10 000. C'est impossible de dire combien. Il faudrait dire leur poids plutôt que dire leur nombre. Les muscles qui font leur poids et se contractent pour les faire avancer. Ils font trembler la terre. Il est certain qu'à plusieurs kilomètres, d'autres plus petits ou plus menaçants au contraire sont avertis de la migration de ces corps magnifiques. À leur passage, cela s'est déjà vu, la terre qui est rouge ici se soulève dans des nuages de colère ou de peur alors que la terre n'a de raison ni pour l'une ni pour l'autre. Quelques petits, zèbres rayés mais plus finement, le corps un peu gauche, le galop pressé et le museau toujours fourré dans le flanc d'un plus grand, il y a quelques petits comme ça. Auxquels il convient de faire attention car s'ils prenaient du retard, vous savez, c'est comme partout, Dieu sait par qui ils seraient rattrapés. C'est un après-midi dans la savane, où le ciel a rejoint bientôt le rouge exsangue de la terre. Aux zèbres, à leur masse, se joindront peut-être d'autres plus ou moins nombreux ou forts. Ils viendront faire enfler le bruit du galop qui répète « On arrive, faites une place, amenez l'eau car on arrive ». Cette rumeur répétée encore et toujours, puisqu'il fut encore et toujours question de se rendre d'un endroit à un autre. Martine Denis avec le titre Coronation qui transforme votre radio en documentaire animalier. Mais il est bien 6h23, vous êtes bien sur France Culture, elle est fin prête, c'est la vignette. Bonjour Aude Lavigne.
Bonjour Marie, folk music ce matin avec un groupe parisien, un duo homme-femme à la ville comme à la scène qui vient de sortir un deuxième album plein de charme, de fantaisie, de bizarrerie à l'image de son titre, La fiancée du crocodile. C'est la vignette avec Delphine Passant et Fabien Guidolet alias Vérone. La critique ne tarit pas d'éloges.
Un homme et une femme, effectivement.
Oui, un homme et une femme, un duo. Sur votre travail, Véronne, on vous félicite même de prendre votre temps. Ça fait 5 ans que vous n'avez pas fait de
oui,
musique.
Et
on dit bravo, c'est très très bien. Une très belle pochette, psychédélique, une fantaisie mesurée dans la musique, de l'onirisme dans les textes, à laquelle s'ajoute une distante ironie dans l'interprétation. Bref, C'est un régal. Donc, dans les 10 titres de cet album, La fiancée du crocodile, on aimerait entendre votre travail, comment vous vous y prenez pour composer cette musique qui nous séduit tant. On a choisi le deuxième morceau, Silence Radio. Vous allez nous dire, si vous le souhaitez, comment vous l'avez composé et puis on l'entendra. Alors Fabien, vous êtes souvent, vous, le premier à écrire les textes.
Oui, parce que c'est moi qui chante ce titre. Donc en fait, c'est moi qui ai fait effectivement, qui suis responsable du texte, que j'ai écrit en vacances, je m'en souviens encore. Voilà, tout simplement, c'est un titre de vacances, puisque c'est l'histoire d'une personne qui est super contente d'être tranquille et délivrée du fracas de la ville et qui n'a pas très très envie qu'on le retrouve. Voilà, donc c'est...
Donc les paroles sont...
Et qui est au soleil, sur une île, avec un chapeau de paille, sans rien faire.
Oui, voilà, en fait. Quoi. Le refrain, c'est un peu du type...
Le refrain à cappella, ça donne
silence radio sur les ondes, j'ai réussi à me faire la belle. Voilà, donc je suis super content, vous n'allez pas me trouver, vous pouvez me chercher, mais ça ne va pas être facile. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Bon, la chanson, c'est un titre très, pour moi, année 70, quoi. C'est un peu une chanson verte, quoi. Enfin, voilà. Enfin, elle est plutôt jaune, parce que c'est plutôt le sable, là, mais c'est plutôt ça, quoi. Voilà.
Une fois que vous avez écrit ce texte, vous le donnez à Delphine Passant, c'est ça ? Comment ça se passe ?
On travaille ensemble sur la musique, qui est partie d'une guitare principale, en fait, qui a vite été complétée par un dobro pour la couleur un peu ensoleillée.
Un dobro ?
Dobro, c'est une guitare slide, en fait.
Un instrument américain qui joue en slide, qui est plutôt un instrument utilisé dans le blues. Voilà, c'est une guitare avec un résonateur en fait, métallique qui est très lourd et qu'on joue en slide. Parce qu'en fait, c'était un peu ça notre souci en fait sur ce titre. C'était ce que nous, en fait, notre son en termes de groupe en général, c'est plutôt un son un peu plus électrique avec quoi du délai sur les guitares, un truc très Chris Isaac dans les guitares. Et sur ce titre-là, il nous fallait un truc plus africain, quoi. Voilà, quelque chose de beaucoup plus. Il n'y a pas de réverb, pas de délai, quoi. C'est quelque chose de.
On s'était dit
qu'on joue sur la plage.
Qu'il n'y aurait pas d'électricité dans le morceau, en fait. Ce serait un morceau qu'on pourrait jouer complètement acoustique.
Pieds nus, quoi.
Voilà, pieds nus, sans courant.
Voilà, et le budget s'étant réduit au dernier moment, on n'a pas pu aller ensuite sur place à l'étranger pour enregistrer. Donc on a dû imaginer ce qu'on pouvait faire ici. Et donc, on a basé le morceau sur, en fait, un petit instrument quand même africain qui est
la kalimba.
Voilà, c'est une sorte de petit, piano à pouce, percussif. Le nôtre étant fait à partir d'une boîte, de conserve. Donc, on peut mettre de l'eau dedans, ce qui permet d'avoir des effets de vagues. Ça, c'était la base du titre, en fait, même plus que la guitare, quasiment.
Je viens sur mon âne le long des sentiers. Je ramasse les mangues, les papayes sans me fatiguer. J'ai perdu mon chapeau de paille dans la bananeraie. Au milieu de la plantation, je pourrais travailler. J'aurais couché sur ma natte à l'ombre des palmiers, à attendre que monte la mer, la brume des alizés. Silence radio, je donne pas de nouvelles. J'ai réussi à me faire la paix. La nuit, quand je me baigne, je mange sur la plage des poissons hallucinogènes enroulés de tabac.
Véronne, merci beaucoup. Je rappelle, dans les bacs, on retrouve votre disque
merci,
La fiancée du crocodile chez Talitre, et puis en concert à Roubaix le 18 février et fin mars à Niort et à Pau.
Seul que je vénère. Silence radio.
C'est presque un silence radio. Il fait un petit peu plus chaud que d'habitude sur les ondes. Je vous parlais tout à l'heure des rencontres organisées à l'occasion de la sortie du film Traduire aux Trois Luxembourg autour de la réalisatrice Nourrit Aviv. Et bien, je le répète, c'est donc ce soir 19 janvier à 21h avec Hélène Sixou. Demain, jeudi 20 janvier à 21h avec Henri Atlan, dont nous parlions avec vous, Philippe, il y a quelques jours. Dimanche 23 janvier à 11h du matin avec Jacques Ehrenfreund. Le 25 janvier à 21h avec Jacques Roubaud et Marcel Benabou. Toutes les informations sur le site du cinéma Trois Luxembourg. Et puis dans mon plateau radio, eh bien c'est tout à l'heure, le Salon Noir à 14h30 avec Vincent Charpentier qui pose, je trouve, cette très très belle et grande question: à qui appartient le passé des autres? Il est bientôt 6h30. Tout de suite, les titres et la revue de la presse en ligne. Qui nous sont tous présentés par Solène Lehen.
En Tunisie, 4 ministres font voler en éclats le tout nouveau gouvernement d'Union nationale en démissionnant. Ses anciens opposants dénoncent la présence dans ce gouvernement de membres du RCD, le parti du président déchu Ben Ali. L'ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier a été inculpé hier par la justice de son pays. Inculpé de corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir pendant ses années à la tête d'Haïti, Baby Doc, qui est rentré avant-hier d'exil en France, a été laissé en liberté. En France, Nicolas Sarkozy présente ce midi ses vœux au monde de la connaissance et de la culture. Mais les principaux syndicats d'enseignants ont décidé de les boycotter pour protester contre les suppressions de postes dans leur secteur. Et puis la commission des affaires sociales du Sénat a proposé hier une loi pour légaliser l'euthanasie. Elle sera débattue au Sénat dans une semaine, mais a très peu de chances d'être adoptée. La majorité des représentants UMP y est hostile.
À 6h30, Solène, vous n'êtes pas beaucoup plus gaie dans la revue de la presse en ligne.
Les élèves dans la cour ont soudain vu stupéfaits leurs camarades cernés de flammes, hurlant « J'en ai marre », raconte Métro. Le journal, comme tous les autres ce matin sur Internet, relate cette scène, je cite, effroyable, qui s'est produite hier après-midi dans un lycée du 6e arrondissement de Marseille. L'élève de 17 ans se serait d'abord aspergé d'un produit inflammable dans les toilettes de l'établissement, puis immolé par le feu, avant de dévaler les escaliers et de finir sa course dans la cour. Un surveillant a pu éteindre les flammes, mais le jeune homme est dans un état grave, le pronostic vital est engagé. Difficile pour le moment de connaître les motivations de ce garçon, explique Métro. À première vue, il était en échec scolaire, ses parents étaient séparés, il vivait chez son père.
Ça peut paraître un peu téléphoné, mais c'est difficile de ne pas mettre en regard ce fait divers et l'actualité au Maghreb et dans le monde arabe.
Oui, et ce, même si cet adolescent répond au prénom bien gaulois, si je puis dire, de Maxence et étudie au lycée privé catholique Saint-Joseph-les-Maristes. Car la Tunisie fait la une de l'actualité. La révolte qui a renversé le régime de Ben Ali est partie de Sidi Bouzid, d'un jeune homme, Mohamed Bouazizi, diplômé, condamné, faute de débouchés à vendre des légumes. Il avait décidé de mourir en s'immolant par le feu. Depuis, s'interroge l'Express, la Tunisie serait-elle devenue un modèle? Ce type de suicide se multiplie dans les pays arabes et le Maghreb. Une contagion comme une maladie. Depuis le début de la semaine, déjà 9 cas d'immolation. Bouazizi est devenu une icône, érigée même en martyr par les opposants tunisiens. À travers cet acte, les contestataires s'adressent aux autorités car ils ne sont entendus nulle part et il n'y a personne pour les écouter, explique une sociologue dans l'Express. La presse est muselée, les partis politiques interdits. Alors les anonymes, pour exprimer leur malaise social et économique, prennent en exemple Bouazizi qui a réussi à insuffler un vent de révolte.
Et l'Express de dire que les exemples ne manquent pas malheureusement.
Hier, 3 immolations par le feu rien qu'en Égypte, dont un homme de 49 ans. Ce restaurateur protestait parce qu'il n'avait pas reçu de coupon pour acheter du pain. Le gouvernement a tout de suite minimisé la portée de ce suicide pour éviter toute déstabilisation. Le restaurateur était fragile mentalement. En Mauritanie, avant-hier, un homme de 43 ans se serait immolé en dénonçant clairement le régime. Et puis 5 autres en Algérie, dont un chômeur et un homme qui venait d'être exclu de la liste des bénéficiaires des logements sociaux. Chez toutes ces personnes, explique Le Monde, prévaut un sentiment d'abandon par l'État. Un Tunisien qui venait réclamer un logement s'est même entendu dire par le maire moqueur de sa commune « Va faire comme Bouazizi, immole-toi ». Il l'a fait. Ultime acte de désespoir des laissés pour compte, commente Le Monde. Si finalement peu d'entre eux sont morts, précise Rue 89, ces hommes qui ont choisi l'immolation par le feu ont opté pour un acte extrême, choquant, effroyable, disait Métro, violent et surtout visible.
Alors vous le dites, c'est une pratique choquante mais qui n'est pas si nouvelle que ça.
L'Express rappelle à ses collègues des médias qui semblent découvrir l'immolation par le feu que ce n'est pas une spécificité arabe née le 17 décembre 2010. Depuis les années 60, nombre de contestataires ont ainsi protestées dans le monde. Le plus connu, sans doute, le bonze vietnamien Thich Quang Duc, en 63. Il s'opposait au gouvernement du Sud-Vietnam. Les photographies ont fait le tour du monde et sont sur rue 89. En URSS, en 83, un Russe s'immole sur la place Rouge à Moscou pour protester contre le régime soviétique. Puis en Lituanie, en Ukraine, sans oublier Yann Palak, cet étudiant pragois opposé à l'invasion soviétique à la fin des années 60. Plus tard, dans les années 90, des étudiants en Corée du Sud. Et récemment, à l'intérieur de la pagode Shwedagon à Rangoon, en mars 2008, un jeune homme révolté contre la junte birmane.
Et aujourd'hui, halte aux immolations, je cite, implore l'écrivain algérien Aïcha Lemsine. Elle est reprise par E89.
Le suicide par immolation n'appartient pas à nos traditions, écrit-elle. Les bonzes bouddhistes croient en la réincarnation, la souffrance du sacrifice par le feu garantit le nettoyage, entre guillemets, du karma. En islam, le suicide est un assassinat, un crime. La croix rappelle ainsi que l'islam ne permet pas de se séparer de son corps, même pour exprimer un malaise, une colère ou une protestation. Aïcha Lemsine termine « Loin d'être un acte de courage, c'est un acte de peur, la crainte de la vie. » Pour l'Express, l'immolation de Bouazizi par le feu n'aurait jamais eu ce retentissement si elle n'avait pas débouché sur le renversement du régime tunisien. Effet domino ou pas, les régimes de la région vont-ils désormais tous tomber ? S'interroge rue 89. Un chercheur s'aventure à comparer la vague de révolte du monde arabe à la chute du mur de Berlin. Un autre nuance, pour ces régimes, c'est le début de la fin. Car, conclut le quotidien algérien El Watan, cité par Le Monde, il suffit d'une étincelle pour allumer un brasier.
Merci beaucoup Solane et bon vent. Vous savez que vous êtes la bienvenue ici, à pas la peine de crier.
Merci beaucoup.
Le prochain journal de la rédaction à 7h tout rond.
France Culture présente I Wish I Knew, le nouveau film de Jia Zhangke, une plongée dans l'histoire de Shanghai, fascinante mégalopole en perpétuelle évolution. Des personnalités se remémorent leur vie, leurs expériences personnelles et composent une fresque ambitieuse sur l'histoire d'une ville et d'un peuple. I Wish I Knew au cinéma le 19 janvier, un film France Culture.
La table est ronde, à plus Solane, il est 6h36, elle s'est remplie. Bonjour Philippe Petit,
rebonjour Marie.
Vous éclairez donc le lundi, mardi, mercredi, c'est votre dernier jour de la semaine. Sur l'actualité des idées, des essais, aujourd'hui vous nous faites l'éloge du politique.
Oui, éloge du politique, livre de Vincent Peillon. Alors souvent les livres d'hommes politiques sont bâillatifs, on baille. Hein. Là, ne boudons pas notre plaisir, les hommes politiques qui font de la philosophie sous les draps ne sont pas légion. Vincent Peillon, qui est né en 1960, est une exception. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Peillon est aussi un tribun. Il n'a pas les yeux rivés sur son prompteur. Vous pouvez en juger vous-même sur son blog. On le voit à la tribune. Alors, ce n'est pas Jaurès dans le texte, mais c'est enlevé. Il ne crie pas « Vive la sociale », mais il en appelle au courage de la vérité. À l'instar de Littré, il dit vouloir établir la République dans la durée. Il y a du boulot. Et pas seulement dans les rangs du Parti Socialiste. Mais cela n'effraie pas Vincent Peillon qui dirige déjà la très belle bibliothèque républicaine aux éditions Le Bordelot. Grâce à elle, il est possible de redécouvrir le socialisme intégral de Benoît Malon, la morale sociale du solidariste Léon Bourgeois, l'individualisme intégral d'Eugène Fournière. Mais Peillon brûle de réactiver cette tradition et pas uniquement elle. Il brûle plus encore de nous faire partager sa passion pour Maurice Merleau-Ponty.
Alors voilà, il brûle de nous faire découvrir plein de choses. Actualité de la République, actualité de Merleau-Ponty, ça finit par faire beaucoup de monde quand même.
Bien, cela se tient, Marie, rassurez-vous. Dans une époque qui tend à rabattre la politique sur l'économique ou la morale, la conjonction de la politique et de la philosophie relève de l'urgence. Or, il n'y a pas de plus grande figure de cette nécessité que Merleau-Ponty. Sartre ne s'y est pas trompé. Des deux, c'est lui qui a la tête politique, disait-il. Peillon en prend acte et s'appuie sur elle pour réveiller notre présent apolitique. Il ne dépose pas les armes. Il cherche, comme son ami Merleau, à comprendre notre ancrage dans l'histoire. En 1945, le premier numéro des Temps modernes s'ouvrait par cette phrase « Nous avons appris l'histoire et nous prétendons qu'il ne faut pas l'oublier ». Marcel Gauvin Fauchet écrira plus tard « Quelle tristesse, tout se passe comme si l'histoire n'existait plus. Voyez comme elle n'existe plus avec la Tunisie. Cherchez l'erreur. » Sartre, dans son merveilleux portrait de Merleau en 1961, avait écrit « Il s'orientait mieux que moi dans le monde ambigu de la politique. » Eh bien, la postérité a retenu le contraire.
Et vous allez nous expliquer le pourquoi du comment de cette bévue, Philippe.
La bévue, c'est l'oubli de la tradition socialiste non marxiste, l'oubli du républicanisme de Merleau-Ponty. Vous voyez le lien entre les deux héritages. Peillon défend Merleau parce qu'il est de cette école et qu'il poursuit à sa manière la critique du capitalisme et du libéralisme inaugurée par celui qui refusait la pensée dégagée et la morale des bons sentiments.
Qu'est-ce que la pensée dégagée ?
C'est quoi la pensée dégagée, Marie ? C'est la pensée qui croit à une liberté qui ne serait pas au contact du monde, des autres, de leurs déraisons, de leurs faiblesses, de leurs contingences. C'est la pensée qui transforme la liberté en destin et croit l'histoire innocente.
Et puisque j'y suis, quel est le contraire de la pensée dégagée ?
Alors, le contraire de la pensée dégagée, c'est la pensée qui considère que la colère et la révolte peuvent être un mode de connaissance. C'est la pensée qui se demande, par exemple, comme le fit Merleau-Ponty en 1945, comment l'antisémitisme est-il possible ? Eh bien, on se le demande encore. Regardez les sites sur Internet, honteux, glosant sur les origines juives de Vincent Peillon. Quelle honte ! Mais il n'y a pas que l'antisémitisme. Il y a le vent de l'indifférence, le déni de la contingence historique, les illusions de la conscience morale qui font de nous parfois des cyniques ou des coquins. Peillon reprend le dossier à zéro, il rejoue le match Sartre-Merleau-Ponty avec talent, il cherche de nouveaux rapports entre philosophie et politique et il les trouve. Il rêve, comme Merleau-Ponty, d'une action à distance qui ne serait pas une politique juste ni définitive, mais une production d'effets politiques, se réservant le droit de trahir son camp si la recherche de la vérité était entravée. Alors, Peillon trahira-t-il son camp ? Il est pour l'heure occupé à rentrer dans le rang, un peu trop peut-être. Attendons 2012 et la suite pour le savoir.
Alors, si mes souvenirs sont bons, il est publié au Seuil, c'est l'éloge du politique, c'est cela, Philippe ?
Édition du Seuil, éloge du politique, une introduction au 21e siècle, carrément.
C'est formidable. Merci beaucoup, Philippe. Et la transition est toute trouvée puisque vous avez vu, vous, Sophie Joubert, L'Incompris.
L'Incompris, c'est un film de Luigi Comencini qui vient de sortir en DVD, de ressortir en DVD chez Carlotta. L'Incompris est aujourd'hui un classique, mais fut sifflé au Festival de Cannes à sa sortie en 1967, avant d'être reconnu à sa juste valeur 10 ans plus tard. C'est une grande œuvre sur l'enfance, un mélodrame délicat qui s'attarde sur les visages, avec quelques splendides escapades urbaines. Comencini a étudié l'architecture avant de faire du cinéma, et ça se voit. Alors, l'histoire en deux mots, le consul de Grande-Bretagne vient de perdre sa femme, il rentre dans sa belle villa de Florence, anéanti par la douleur, et il annonce à son fils aîné, Andrea, 11 ans, la mort de sa mère, mais décide de la cacher au plus jeune, Milo, 6 ans. Le film est le récit d'un malentendu entre un père et un fils, librement adapté d'un roman de la fin du 19e siècle, classique larmoyant de la littérature enfantine dont il reste très peu de traces dans le scénario.
Quando vi ho mandato a casa dei Gill, vi ho fatto dire che la mamma doveva partire all'improvviso. Beh, non era vero. Invece era qui, in casa, malata. E durante la vostra assenza si è aggravata. E ora, vedi, Andrea?
Lo so. I signori Gill lo hanno detto piano, ma io li ho sentiti lo stesso.
E stai fermo. Meglio così, Andrea. Mi fa piacere questo tuo coraggio. Eri forte, lo sapevo, tant'è vero che avevo deciso di dirtelo che la mamma non c'è più.
Le consul John Duncombe annonce à Andrea la mort de sa mère. L'enfant balaie ses larmes d'un geste. Le père y voit du désintérêt, une absence de sensibilité. « Je suis méchant, envoie-moi en pension », dira plus tard le garçon. « Non, tu n'es pas méchant, tu es fait comme ça, les choses glissent sur toi », lui répond le père. À l'apparente froideur d'Andrea, le père préfère l'exubérance capricieuse de Milo, petit prince gâté et en apparence fragile. Comme dans les histoires édifiantes pour enfants sages, Andrea semble être pris dans un engrenage. Il se met en danger, s'enivre, rate toutes ses tentatives. tentative de rapprochement avec son père. Une attitude qui n'est pas sans rappeler celle de Pinocchio, le héros de Carlo Collodi, pantin de bois devenu un enfant rebelle devant la caméra de Comencini en 1972. C'est la solitude d'Andrea qui frappe et émeut, son dialogue muet avec sa mère morte, dont le portrait semble veiller sur la maison. L'enfant ouvre un placard comme un hôtel de prière et trouve un mot de sa mère. Plus tard, il écoute en cachette sa voix enregistrée sur un magnétophone jalousement gardé par le père et l'efface par mégarde.
Alors Sophie Comencini est le cinéaste de l'enfance. Est-ce qu'il se met à la place du jeune garçon ?
Oui, Comencini, mort en 2007 et auteur d'une cinquantaine de films, a toujours parlé de l'enfance depuis son premier court-métrage en 1946, Les enfants dans la ville, jusqu'à Un enfant de Calabre et Marcellino, ses films les plus récents. L'incompris est filmé à hauteur d'enfant avec certains passages tournés en caméra subjective comme la déambulation muette du garçon dans les couloirs et les escaliers monumentaux de la Villa Florentine. Des plans en plongée et contre-plongée montrent un enfant perdu dans un monde d'adultes, une société riche et figée avec nurse en uniforme, fermée sur elle-même. Un monde masculin aussi avec ce père adepte d'une éducation traditionnelle, incapable d'exprimer son amour autrement que par des règles strictes. Tu seras un homme, mon fils.
Bah voyons, comment Comencini traite-t-il la relation entre les deux frères ?
Alors c'est le deuxième niveau du film. Comencini tisse une complicité secrète entre les deux frères, au-delà de leur rivalité, parfois cruelle, pour obtenir la reconnaissance du père. La maison, lieu du deuil et des non-dits, temple du passé et de la mémoire de la défunte, devient un formidable terrain de jeu dès que le père a le dos tourné. Regard fugace du haut d'un arbre, course de vélo dans le jardin planté de lilas, cache-cache dans des recoins inaccessibles aux adultes, la caméra de Comencini suit les enfants sur leur territoire et insuffle une force de vie, dernier sursaut avant que le drame et la fatalité reprennent le dessus.
Cela paraît...
J'ai pleuré, je vous l'avoue.
Cela paraît chez un éditeur que vous chérissez.
Carlotta.
Merci beaucoup Sophie Joubert et à demain. Salut à vous Marc Ponche.
Et bonjour Marie Richeux.
Comment allez-vous?
Carlotta, excellent. Hein. Vincent Paul Boncourt, oui, c'est vraiment c'est très très bon. Aujourd'hui, vous savez quoi?
Vous êtes entouré de deux grands hommes.
C'est comme, on reçoit deux trésors nationaux vivants, comme on dirait au Japon. Excusez du peu, Stéphane Hessel et Edgar Morin. L'un dit « indignez-vous » et l'autre dit « engagez-vous ». Voilà, alors il y en a un qui publie un tout petit livre, on connaît maintenant le succès de ce livre et nous y reviendrons, nous avons pris le temps nous pour justement revenir avec lui. Et l'autre publie un livre plus important, Edgar Morin, plusieurs centaines de pages, chez Fayard, où il dit il faut entamer une réforme de vie. Réforme de...
Trouver la voie.
Voilà, trouver la voie. C'est un vaste programme, hein. Il n'a peur de rien, Edgar Morin, mais bon, il peut. Hein. Voilà, donc enfin, on va aller faire dialoguer tous les deux ce matin, dans les matins, à 7h40, à 9h. Et sinon, quand même, si vous avez encore une place, il ne faut pas rater Bernard Haitink ce soir, Salle Pleyel. Grand chef néerlandais qui va diriger Beethoven avec l'Orchestre de Chambre d'Europe. Bernard Haitink, après c'est fini.
Après,
il
c'est
arrête.
Fini. Après,
oui.
Il arrête.
Ah oui, c'est ce que j'ai
alors,
pas
on
bon,
y va ce
cas.
Soir. On y va tous ce
c'est
soir.
Énorme,
et en attendant
voilà.
D'écouter Bernard Haitink, d'écouter Marc Boinchet et d'écouter Edgar Morin et d'écouter Stéphane Hessel, ça fait du beau monde. On écoute Jean-Louis Zine. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour. Alors, il paraît que l'on a du talent. Louis Jouvet était en slip et considérait avec curiosité le jeune homme qui, précédé d'une rumeur déjà glorieuse, venait de forcer la porte de sa loge après une représentation de l'École des femmes. Et sur le même ton de Majesté narquoise où il enchaînait les répliques de Molière, le comédien ajouta avec superbe, on croit l'entendre, « Excusez-moi, je vais d'abord pisser. » Puis il disparut. Le jeune homme ne le revit jamais. Aujourd'hui encore, Georges Walter a l'air d'attendre quelqu'un. Au reste, l'auteur des Enfants d'Attila a souvent provoqué ce genre d'apparition, où des mages de renom lui ont fait de grandioses annonces avant de s'évanouir, parfois de façon très brutale. Un jour, ce fut Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui venait de l'engager à l'Express et qui, vêtu du légendaire pull-over bleu-ciel dans lequel il apparaissait à ses journalistes les soirs de bouclage, n'eut que le temps de lui témoigner l'empire et la séduction que sa plume exerçait sur lui avant de s'effondrer à grand bruit un étage plus bas, victime d'un terrible faux pas dans l'escalier où il devisait. Dans la suite, plus jamais J.J.S.S. n'adressa la parole à Georges Walter comme si l'écrivain lui avait jeté un sort. Des messagers de haut vol, il s'en trouva beaucoup d'autres qui célébrèrent sans retenue le génie walterien, Cioran, Kessel, Vialat ou encore Kléber-Hédens qui en 1967 monta deux fois à l'assaut. La première pour exiger que les enfants d'Attila qui écrasaient la concurrence obtiennent le prix Goncourt, la deuxième pour engueuler magistralement les Goncourt qui manquèrent cette chance historique de révéler un grand mais trop rare romancier. Vous avez dit bizarre ? Comme c'est étrange. Kléber-Hédens avait prévenu, il y a toujours un moment où ce diable d'homme prend sa guitare et va son chemin. En fait, c'est bien lui, Georges Walter, qui adore disparaître, se cacher dans les costumes que sa fantaisie lui propose. Il est même capable aujourd'hui de se dissimuler dans le virevoltant récit d'un déjeuner à Colombey autour du général de Gaulle, déjeuner auquel participait André Malraux, expliquant à table qu'il faisait creuser les fossés du Louvre pour en déloger un fantôme hantant ces lieux depuis 3 siècles. Et vous allez voir qu'il se trouvera des gens pour se demander si tout ça est bien vrai. Georges Walter a le don de troubler tout ce qu'il touche, l'histoire, les sources, les esprits, les consciences. La réalité la plus exacte peut aller sous sa plume jusqu'à paraître fictive, voire imaginaire. En fait, il n'a pas son pareil pour montrer comment elle se fabrique à coups de faux papiers, enfante la dérision et l'absurde, et se nourrit d'illusions quand ce n'est pas de fantasmes. Monsieur Georges Walter est décidément un grand écrivain.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Louis Hézy. Nos auditeurs peuvent retrouver votre chronique et toutes les autres sur le site internet France Culture à la rubrique Pas la peine de crier. Et comme le monde n'appartient pas seulement à ceux qui se lèvent tôt, ils peuvent aussi télécharger l'émission entière ou par morceaux. Merci à Sylvia Favre et Franck Lilin. Merci aujourd'hui à la technique à Clément Daté. Merci à la petite équipe de Pas la peine de crier, c'est-à-dire Sophie Bobert et Laurent Polleret. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter une très très belle journée. Cette fois, vous êtes réveillés. Je vous laisse en bonne compagnie. C'est à vous, Marc Vanchet.